Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, la loi, elle dit qu'il y a une discrimination à l'apparence physique. Dans l'apparence physique, il y a le critère de poids, mais la discrimination grossophobe n'existe pas vraiment légalement. Donc on a du mal à les porter plainte. Bon, déjà, on a du mal à les porter plainte, mais on a du mal à les porter plainte pour grossophobie. Et dans des cas où on ne porte pas plainte, mais dans des cas de prud'homme, par exemple, ou de choses comme ça, quand il y a des mots grossophobes, des preuves vraiment d'agression grossophobe, on ne va pas retenir la grossophobie, on va retenir le harcèlement au travail comme critère de jugement. Et quand on retient la grossophobie, on dit « Ah, on a discriminé une personne malade », parce qu'on considère que la personne grosse est malade. Donc vraiment, on n'est pas à l'aise avec tout ça, parce que ça ne reflète pas du tout la réalité des choses, qui fait que vraiment, il y a des discriminations juste grossophobes, parce que les gens n'aiment pas les gros.
Salut à tous, je m'appelle Zoé et vous écoutez Le Lobby, l'émission queer de Radio Campus Paris. Dans cette émission, on va parler de grossophobie à l'occasion de la sortie du livre 10 questions sur la grossophobie qui sort aujourd'hui aux éditions Libertalia. Son autrice, Daria Marx, est avec nous en studio. Bonjour Daria.
Bonjour Zoé.
Pendant toute l'émission, nous parlerons de grosseur, du fait d'être grosse et non d'obésité, qui est un terme médical, je cite, honni par les militants militantes parce qu'il évoque la maladie ou le contrôle biologique des corps. Daria, tu as une longue carrière de militant, tu as cofondé l'association féministe de lutte contre la grossophobie Gras Politique en 2016, qui lutte radicalement contre les oppressions grossophobes dans un cadre queer et féministe, et qui s'élève contre toutes les formes de discrimination. Vous avez d'ailleurs un site internet très fourni en ressources en tout genre, avec par exemple des brochures, dont je recommande la lecture à tout le monde. Tu as publié « Gros n'est pas un gros mot » avec Eva Pérez-Belot aux éditions Flammarion en 2018. Tu as notamment présenté un podcast qui s'appelle « Matière grasse » et dont on reparlera. Tu as également réalisé un documentaire sorti en 2020 qui s'appelle « Ma vie en gros » pour France TV. Et pour ma part, j'ai eu la chance de t'entendre répondre à quelques questions samedi dernier à la parole errante de Montreuil pour les 30 ans des éditions Libertalia. Du coup, toujours pour la sortie de ton livre « 10 questions sur la grossophobie ». J'ai eu moi aussi envie de te poser 10 questions. Du coup, la grossophobie, je l'apprends dès les premières pages de ton livre, ça vient juste d'être connu et reconnu en France, parce que le terme est entré dans le dictionnaire en 2019. Qu'est-ce que le terme de grossophobie désigne ?
La grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations, des attitudes discriminatoires qui sont faites aux personnes grosses. Donc ça recouvre à la fois les discriminations d'ordre privé, dans l'intime, dans la famille, les discriminations qu'on peut subir au travail, dans l'accès aux soins, et puis aussi l'organisation grossophobe de politiques publiques, comme par exemple celle de la santé, encore une fois, la manière dont on conçoit les villes, dont on invente les transports de demain. Est-ce qu'on pense aux personnes grosses là-dedans ou est-ce qu'on les construit de manière grossophobe ?
Et dans le livre, tu fais un petit panorama scientifique de la lutte contre la grossophobie, parce qu'en fait, les premiers prémices de la lutte, c'est dans les années 60, avec notamment le mouvement des droits civiques. Et je voulais insister sur le fait que le livre, c'est vraiment une source de faits historiques, c'est vraiment très très scientifique, et ça retrace les bases de ce mouvement.
En fait, ça me tenait vraiment à cœur de retracer l'histoire de ce mouvement à la fois aux États-Unis, parce que ça part des États-Unis, mais aussi en France, parce que je trouve que on rend pas assez hommage aux militants et aux militantes de jadis, de naguère. Et en fait, moi, si je suis là aujourd'hui, si je peux porter cette lutte, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des idées insufflées en moi quand j'avais 18 ans, quand j'étais plus jeune, etc. Et ça me tenait vraiment à cœur de rappeler ça. Et puis, pour ce qui est de l'émergence de la lutte contre la grossophobie en partenariat avec la lutte des droits civiques dans les années 60-70, ça me tenait aussi à cœur parce qu'il faut rappeler que ce sont des femmes grosses et souvent racisées qui ont commencé à porter cette lutte et on a tendance à l'oublier, à le whitewasher un petit peu avec, on a eu toute la traîne du body positive etc. qui est devenue très blanche, donc je crois qu'il fallait vraiment rendre à ces femmes justice et leur dire merci pour ce qu'elles ont accompli et ce qui nous permet d'être là aujourd'hui.
Et tu parles de vagues de mouvements de lutte contre la grossophobie, un peu comme le féminisme. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'en fait, on peut vraiment dater ces vagues. aujourd'hui on serait à une espèce de, je sais pas, troisième ou quatrième vague de lutte contre la grossophobie?
Oui, je pense qu'on est un peu dans une quatrième vague, un peu comme pour le féminisme, où on s'aperçoit que la grossophobie fait partie de l'éventail intersectionnel des luttes qu'il nous faut prendre en compte si on veut s'affirmer comme luttant contre les discriminations aujourd'hui. Et je pense que les personnes qui luttent contre la grossophobie sont elles-mêmes intersectionnelles, en tout cas devraient l'être, et j'appelle mes consoeurs et mes confrères qui luttent contre la grossophobie à être dans l'intersectionnalité et à penser la grosseur avec les autres discriminations, parce que c'est comme ça qu'on aborde la réalité des attitudes discriminantes aujourd'hui.
Et d'ailleurs, je te cite juste sur un petit passage, tu dis « Il est impossible de nier qu'un mouvement sérieux est en marche en France, sous l'impulsion de petits collectifs autonomes et de leurs actions de sensibilisation menées dans les écoles, certaines facultés et les associations. » Et je me demandais si on pouvait dire que la sensibilisation à la grossophobie, le fait même qu'on puisse aujourd'hui parler de grossophobie, moi à ce micro l'employer, c'est le résultat de luttes directes de petits collectifs autonomes.
Oui, on ne peut pas dire qu'il y ait une vraie vague de mobilisation incroyable. Il n'y a pas eu de Fat Pride dans les rues. Les gros n'ont pas dévalé les Champs-Élysées. Enfin, tout ça n'est pas arrivé. Mais par contre, il y a vraiment eu des tas de petits collectifs qui ont fait beaucoup de bruit. Bon, évidemment, Gras Politique, c'est le mien, donc je le cite avec plaisir. Mais aujourd'hui, il y a la lutte des Grâces à Toulouse, il y a Gros Amour à Rennes, il y a eu le livre de Gabriel Dédier qui a fait du bruit, il y a eu Leslie Barbara Butch qui a porté aussi un message. Enfin, il y a plein d'individus et de collectifs qui ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. En fait, on est tellement gros qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup pour faire du bruit, donc c'est fantastique. Oui, il faut vraiment penser à eux et les remercier.
J'ai cru comprendre que, pour parler un peu plus du livre en lui-même, en tant qu'objet, j'ai cru comprendre que c'était les éditions Libertalia qui t'ont contacté pour l'écrire dans le cadre d'une collection qui s'appelle 10 questions sur, dans laquelle on retrouve par exemple 10 questions sur l'anarchie. C'est celui dont je me rappelle le plus. Comment le lien avec les éditions s'est fait ?
En fait, j'ai la chance de travailler avec une agente littéraire qui s'appelle Julie Finidori, qui travaille avec plusieurs maisons d'édition. C'est elle, je crois, qui a proposé ce projet à Libertalia. Et eux ont été tout de suite très intéressés, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est une très chouette maison d'édition qui traite beaucoup des sujets des discriminations et des luttes sociales. Donc c'était très chouette. Et ils ont été... j'ai eu carte blanche pour écrire ce livre, donc j'ai vraiment pu dire ce que je voulais. Ils m'ont vraiment offert une liberté de rentrer en fait dans la profondeur des choses. Le premier livre que j'ai écrit, Gros n'est pas un gros mot, c'était un peu un résumé, un petit panorama de c'est quoi la grossophobie, comment est-ce qu'on la reconnaît. Là, j'ai eu la chance vraiment de pouvoir rentrer en profondeur dans les choses, de travailler mes sources, d'avoir le temps de le faire et le nombre de pages nécessaires pour le faire. Donc c'est super.
La seule contrainte formelle, c'était les 10 questions, du coup.
Voilà, la seule contrainte, c'était les 10 questions. La seule contrainte, c'était les 10 questions et tu nous le rends tel jour. Donc à part ça, c'était bien.
Et tu l'as écrit en combien de temps, du coup ?
Je sais pas, 2 mois et demi, quelque chose comme ça.
Ah ouais. Et du coup, ça faisait longtemps que tu rassemblais un peu des sources, ou comment t'as vraiment rassemblé le matériel ?
Après, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe au quotidien. Donc, il n'y a pas un jour où je ne fais pas une veille sur la grossophobie, où je ne me note pas des trucs, où je ne lis pas quelque chose. Donc, c'est un peu mon obsession numéro un. Donc... tout est un peu dans ma tête. J'ai fait un plan, en fait. J'ai juste fait un plan. Et le format des 10 questions m'a beaucoup aidé pour ça, parce que ça m'a aidé aussi à organiser mes idées. Et puis après, on a bossé. Hein.
Samedi dernier, tu disais que en fait, c'était la première fois qu'on te demandait de faire quelque chose qui ne soit pas un témoignage de ta vie de grosse et qui incluait pas forcément juste le récit de ta vie entière, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à ça ? Qu'est-ce que ça change de faire quelque chose de vraiment purement factuel ?
En fait, jusqu'ici, aujourd'hui, je trouve qu'on demande beaucoup aux militantes et aux militants qui portent un discours sur une discrimination qu'ils subissent eux elles-mêmes, de raconter leur vie pour être crus, pour être entendus. Et ça s'entend vraiment dans les podcasts, dans les livres. Il y a une espèce d'économie du témoignage qui se fait, qui, moi, commence à me déranger un peu. Je vais faire un parallèle qui est un peu trigger peut-être, mais c'est comme quand on dit « il faut dire je te crois » quand quelqu'un te raconte qu'il a été agressé, ok. Mais une fois que tu as dit « je te crois », il se passe quoi en fait ? J'ai l'impression qu'on parle, on parle, on parle, mais il se passe rien derrière. Et en fait, je trouve qu'on est à ce moment où en fait, ok, on sait en fait que tout ça existe, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on bouge les choses ? Et vraiment, ce livre, je sais pas, il me donne un peu d'espoir de penser que je donne des clés pour changer les choses, que je donne des clés pour comprendre qui sont pas que des témoignages. Je vais pas chercher les gens sur l'émotionnel, je dis regardez, les faits, c'est qu'il y a pas d'ambulances dans tant de départements en France qui puissent supporter les gens au-dessus de 130 kilos. Qu'est-ce qu'on fait de ce fait ? J'ai l'impression qu'il faut qu'on se confronte aux faits aussi et pas seulement à des témoignages qui appellent l'émotion, disent « Ah bah oui, c'est triste, mais il se passe rien derrière en fait. » Et puis la compassion des gens, c'est super, mais moi en fait, je veux aussi des ambulances, de l'accès aux soins, de l'accès à l'embauche, les mêmes droits pour tout le monde. C'est super si on arrête de me traiter de grosse truie dans la rue, mais ça va pas changer toute ma vie quoi.
C'est vraiment de changer le système, en fait.
Absolument. Et puis vraiment, c'était l'occasion, ce livre, ces 10 questions, de montrer que la grossophobie s'organise dans un système. Et on est tout le temps à parler de lutte systémique, de racisme systémique, de choses systémiques. Mais en fait, la grossophobie est systémique. La grossophobie participe à ce système qui trie les gens selon leur degré de dignité. Si vous êtes mince, vous êtes digne d'accès aux soins, vous êtes digne d'avoir un emploi, vous êtes digne d'avoir un compagnon, d'avoir une compagne, vous êtes digne de plein de choses. Si vous êtes grosse, on décrète les politiques de santé, les politiques d'embauche, plein de choses, décrète que vous n'êtes pas digne d'exister, pas digne d'être dans l'espace public. Donc il y a une organisation politique de l'indignité des corps gros.
Et d'ailleurs, tu dis dès la première page, on parlera aujourd'hui de grossophobie internalisée. Être grosse est une abomination, il faut donc se prémunir à tout prix de cet état de disgrâce sociale. On devient donc un bourreau pour soi et pour les autres en appliquant des préceptes normatifs inutiles. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, tu parles de certaines études qui sont faites sur, avec des enfants pour comprendre comment telle ou telle discrimination se met en place. Et que, en fait, on s'est rendu compte que la grossophobie, c'était une des discriminations qui était internalisé le plus tôt, peut-être même que d'autres.
Oui, oui, c'est internalisé très tôt. D'abord parce qu'il y a des messages à la maison qui sont très forts sur le fait de ne pas devenir gros. Moi, il y a quelque chose qui me frappe toujours dans les études, c'est que le trouble du comportement alimentaire le plus répandu dans les cas supérieurs, c'est l'anorexie. Le trouble le plus répandu dans les classes, les CSP moins, enfin, ce qu'on dit comme ça, c'est plutôt la boulimie, l'hyperphagie. Parce qu'en fait, c'est valorisé d'être mince dans les classes supérieures, et donc l'anorexie s'y développe sans qu'on y trouve matière à dire. Et alors que si on est gros dans les classes supérieures, c'est vécu comme un déclassement. Donc ça, c'est vraiment intéressant socialement, puis ça correspond très bien à ce qu'est la réalité des grosses en France, notamment, où les grosses sont principalement des personnes pauvres ou en situation de précarité, qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité ou qui ne peuvent pas faire les choix alimentaires qu'ils aimeraient faire.
Moi, je voulais aussi parler d'un terme que tu emploies, c'est le terme de panique morale de l'obésité. Que tu le dates des années 90, qui sont les premières années de ce que les militants contre la grossophobie appellent la panique morale de l'obésité. Qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, une panique morale, c'est exactement la même chose que ce qui se passe avec les personnes trans en ce moment. C'est la panique morale, c'est-à-dire qu'on va choisir quelque chose. Alors ça peut être la transidentité, les transitions de genre, ou alors ça peut être l'obésité. Et on va dire « Ah là là, c'est la cause de tous les maux, et on va tous mourir, et c'est ces gens-là qui font capoter la société, et regardez comme ce sont des monstres, et tout est de leur faute, etc. etc. » C'est-à-dire qu'on va prendre un épiphénomène, ou alors une maladie, ou alors juste un état de fait, et on va décider que c'est ça qui cause tous les malheurs du monde, et que ces gens-là sont mauvais, etc. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'obésité, où aux États-Unis, un jour, on décrète que l'obésité est une épidémie. Ce qui est quand même très étrange, que l'épidémie, on le sait bien avec ce qu'on vient de se prendre dans la gueule avec le Covid, c'est lié à la maladie, c'est-à-dire à la transmission de germes ou de virus, etc. Mais là, on annonce que l'obésité serait une épidémie. Donc, comment ça se passe? On ne sait pas. Est-ce que si je touche quelqu'un, il devient gros? Enfin, vraiment, c'est très bizarre. Et vraiment, on fait de l'obésité le pire truc du monde. C'est-à-dire que les dirigeants américains disent il faut que tous les Américains perdent du poids, on est en guerre contre l'obésité. Il y a un vocabulaire très martial qui se met en place. Vraiment, on organise une panique chez les gens pour leur faire croire qu'être gros, c'est la pire chose du monde. Et il y a cette étude dont je parle dans le bouquin quand même très intéressante. C'est, si on parle juste des conséquences sur la santé de l'obésité, puisque c'est ça dont on nous parle tout le temps, et ta santé, ok, parlons santé deux minutes. Il y a une méta-étude qui dit oui, effectivement, l'obésité pourrait être facteur de risque x2 sur des pathologies. Ok, j'entends. Mais ce qui est x3, c'est la pauvreté. Donc il vaut mieux aujourd'hui être riche et obèse que mince et pauvre. Et ça, personne n'en parle. Il n'y a aucune panique morale sur les pauvres. Ça emmerderait un peu trop les gens.
Tu en parles beaucoup dans ton livre du fait que la grossophobie, c'est vraiment à l'intersection d'autres discriminations. Et tu rappelles que les prémices de la lutte contre la grossophobie se confondent avec celles d'autres populations minorisées aux États-Unis, donc c'est lié au mouvement des droits civiques et aux personnes des droits LGBTQI+, mais aussi au sexisme. Tu dis à un moment que les femmes doivent rester fragiles pour ne pas inquiéter la puissance des hommes, leurs rondeurs doivent donc se cantonner à leur caractère sexuel secondaire ou à leurs épaules. Et aussi du coup de racisme, comme tu viens de dire. Et ce qui m'a le plus frappée, c'est vraiment cette intrication entre grossophobie et racisme.
Oui, c'est très clair, et c'est encore peut-être plus clair aux États-Unis où les questions de race sont extrêmement visibles, mais il y a quelque chose d'attaché à la grosseur, notamment chez les personnes noires aux États-Unis, qui les diabolise complètement et qui les cantonne dans une sous-classe par rapport aux Américains blancs. Et ça, c'est indéniable, et c'est en train d'arriver en France petit à petit, et ça arrive par des biais parfois qui se veulent bienveillants. Par exemple, c'est les nutritionnistes dans les associations d'accueil de personnes exilées qui vont dire « Ah, vous avez tendance à prendre du poids, il faudrait adopter un régime occidental. » Donc il faudrait arrêter de manger comme vous l'avez appris toute votre vie et toute la culture, tout votre héritage, etc. Non, vous allez manger un jambon beurre parce qu'en France, on mange du jambon beurre. Enfin, c'est complètement déconnant.
Il faut s'intégrer.
Exactement, il faut s'intégrer à tout prix, et dans le bon moule pondéral et dans le bon moule culinaire. Il faut devenir le français lambda.
Je voulais aussi parler de la reconnaissance légale de la grossophobie. C'est la 7e question de l'ouvrage. Tu dis comment faire exister la discrimination grossophobe légalement ? Parce que pour l'instant, le délit de grossophobie n'existe pas. Et tu dis que pour faire reconnaître des propos ou des gestes grossophobes, il faut soit choisir entre du harcèlement moral, par exemple dans un cadre de travail, ou une discrimination liée au handicap.
Voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui en France, la loi elle dit qu'il y a une discrimination à l'apparence physique. Dans l'apparence physique, il y a le critère de poids, mais la discrimination grossophobe n'existe pas vraiment légalement. Donc on a du mal à les porter plainte. Bon, déjà on a du mal à les porter plainte, mais on a du mal à les porter plainte pour grossophobie. Et dans des cas où on ne porte pas plainte, mais dans des cas de prud'homme par exemple, ou de choses comme ça, quand il y a des mots grossophobes, des preuves vraiment d'agression grossophobe, on ne va pas retenir la grossophobie, on va retenir le harcèlement au travail comme critère de jugement. Et quand on retient la grossophobie, on dit « Ah, on a discriminé une personne malade », parce qu'on considère que la personne grosse est malade. Donc vraiment, on n'est pas à l'aise avec tout ça, parce que ça ne reflète pas du tout la réalité des choses, qui fait que vraiment, il y a des discriminations juste grossophobes, parce que les gens n'aiment pas les gros. C'est vraiment un impensé total pour l'instant de la justice, et il n'y a pas tellement encore de plaintes pour grossophobie pure. Par exemple, on pourrait porter pour insulte grossophobe, pourquoi pas. Pour l'instant, ça n'existe pas.
Est-ce que pour toi, ce serait important justement qu'il y ait cette reconnaissance légale ?
Malheureusement, c'est important de le faire parce qu'on est en France et qu'en France, on est un pays où pour faire exister une discrimination, il faut qu'on puisse pouvoir dire « Alors voilà, on a eu une augmentation de tant de pourcentage de plaintes sur X, sur ce terme-là ou sur cette discrimination-là. » On est dans un truc très procédurier. Donc oui, je pense qu'il va falloir qu'on fasse comme ça pour faire exister légalement cette discrimination.
Le lobby. Tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Je voulais parler de ton podcast, Matière Grasse, que tu as présenté. Donc, c'est un podcast qui est lié à l'association Gras Politique.
Oui, c'est pas le mien, c'est le podcast de Gras Politique, je tiens à le dire.
Donc le podcast de Gras Politique, mais que tu présentes.
Oui, absolument.
Donc pour l'instant, il compte 2 saisons, il y a aussi des hors-séries et des capsules. Il est garanti sans publicité pour crème amincissante ou régime farfelu.
Il manquerait plus que ça.
Vous faites aussi des capsules où vous présentez des artistes grosses, donc par exemple Cass Elliot ou Mama Cass, qui était la chanteuse du groupe américain de Mamas and the Papas. Je voulais savoir quelles figures de gros ou grosses t'ont marqué dans ta vie, que ce soit des militants ou des artistes.
Bah, c'est une bonne question. Quand j'étais, moi j'ai 43 ans, quand j'étais ado, petit, il n'y avait personne en fait. C'est fou, hein. Mais les seules représentations, c'était soit des gros qu'on montrait parce qu'ils allaient être au régime, ou soit il y avait un livre qui m'avait vachement marqué, mais c'était horrible parce qu'en fait la grosse, elle se coupait les bourrelets dans sa baignoire. Mais en fait, j'étais tellement content d'avoir un personnage gros que presque c'était pas grave, quoi. J'étais content. Après, à la télé, tout ça, il y avait vraiment personne, donc c'est arrivé plus tard. Enfin, moi, j'ai Bess Ditto, elle a changé ma vie quand même. Quand j'ai eu Bess Ditto débarquer avec ce côté punk, l'avoir en concert à moitié à poil sur scène, adulée par des dizaines de milliers de gens. Enfin, je veux dire, c'est incroyable à voir, quoi. Incroyable. Et puis, au niveau des militantes, moi, j'ai commencé à militer contre la grossophobie, j'avais 18 ans. Je suis arrivée dans une association qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait Allegro Fortissimo, qui avait été fondée par une dame qui s'appelle Anne Zamberland, qui était une comédienne incroyable, qui avait été égérie de Virgin Megastore, qui avait posé nue pour Virgin Megastore, donc il y avait son corps potelé partout dans les rues de Paris, c'était tout un truc. Et moi, j'ai rencontré là-bas des femmes, alors je vais dire, Sylvie Benkemoun, ça ne vous dit rien, mais aujourd'hui, elle est présidente du GROL, du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui m'a beaucoup appris, Catherine Lemoine, une autre personne, enfin vraiment des femmes qui sont des anonymes pour vous, mais qui pour moi, en tout cas, m'ont montré le chemin et qui, même parfois sans discours militant, m'ont juste dit, m'ont rien dit, mais m'ont juste montré que bah, elles avaient 20 ans, 30 ans de plus que moi et qu'elles avaient eu un métier, qu'elles s'étaient éclatées, qu'elles avaient eu des vies amoureuses, enfin voilà, que ça allait aller en fait. Et moi, toute mon adolescence, je voulais juste qu'on me dise que ça allait aller en fait. Et parfois, quand je parle ou quand je rencontre des gens, c'est pour ça que j'ai fait un peu le documentaire aussi. C'était juste que je me suis dit, peut-être qu'il y a une petite grosse qui va voir ça chez elle. Elle va se dire, ok, ça va aller. En fait, c'est pas si pourri. On va s'en sortir. C'est possible.
Et du coup, entre ton adolescence et maintenant, est-ce que tu trouves qu'en termes de représentation, ça a changé ? Et alors évidemment, toi, tu t'y intéresses fortement et tu, comme tu disais, tu fais une veille sur ça. Mais est-ce que il y a peut-être plus d'artistes grosses connues ?
C'est une bonne. Oui, alors oui, il y a plus d'artistes grosses. Enfin, par exemple, il y a Lizzo, il y a quand même des gens connus, mais vraiment pas dans le même pourcentage qu'il y a de personnes grosses dans la vraie population. Donc, ça, c'est quand même. On est très en retard. À la télé, j'ai pas l'impression qu'il y ait des grosses à la télé. Mais bon, comme il n'y a pas de personnes en situation de handicap, comme il n'y a pas trop de personnes racisées, on est quand même encore sur un modèle. Les années 90 de la télé, enfin, c'est très bizarre ce qui se passe en France, alors que si on allume la télé aux États-Unis ou en Angleterre, enfin, vraiment, il y a une diversité de populations, de corps. Enfin, je ne comprends pas ce qui se passe en France, on est vraiment à la bourre. Non, je ne trouve pas que ça avance tant que ça, en vrai. Je ne trouve pas que ça avance tant que ça. On a toujours droit au reportage « Ils ont un été pour maigrir, les adolescents vont au camp d'été », je ne sais pas quoi. Enfin, ou genre elle fait ça, la chirurgie de la dernière change. Enfin, voilà, c'est toujours quand même assez putassier sur les questions de grosseur à la télé.
Sensationnaliste.
Je ne trouve pas qu'on traite très bien les gens qui sont gros à la télé. Enfin, je sais pas, Laurence Boccolini, elle s'en est pris plein la tronche. Enfin, je sais pas. Alors après, on m'a dit qu'il y avait une petite grosse dans la Starac cette année. J'ai pas regardé, mais voilà. Donc, je lui souhaite bon courage et bonne chance. Mais pareil, moi, toutes mes potes qui regardaient me disaient « Oh là là, elle est super, mais elle est trop mal habillée, quoi. » Parce que ça veut dire qu'en fait, les stylistes de la Starac, ils ont pas fait l'effort d'aller chercher des fringues pour cette meuf qui devait dépasser un 42 ou un 44, quoi. Et c'est toujours les mêmes problèmes.
D'ailleurs, tu parles beaucoup de vêtements dans ton livre.
Ben, c'est un sujet, en fait. Moi, c'est pas ma cam trop, c'est tellement un sujet, quoi. Parce que il y a d'abord trouvé des vêtements. Plein de gros à qui je parle, ils me disent « Mais en fait, moi, je sais pas quel style j'aurais si j'étais mince. » Parce qu'en fait, nous, on n'a pas de style. On a un rayon, ça s'appelle le rayon grande taille. Et on est censé tous aimer ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait, c'est comme ça. Il n'y a qu'un rayon. Donc à partir du moment où tu dépasses le 48, on décrète que ton style, c'est pas gothique ou punk ou je sais pas quoi, c'est grande taille. Donc t'as qu'un style, c'est grande taille. Donc c'est hyper limitant. On n'a pas tous et toutes les talents d'apprendre à coudre, de faire des trucs. Enfin, bon, moi, je les ai pas en tout cas. Et puis, il y a tout le problème aussi éthique d'aujourd'hui, de la fast fashion. Aujourd'hui, on a des gens qui voudraient taxer la fast fashion. Alors, je comprends bien l'idée. La planète brûle, on en est tous et toutes conscients. Mais aujourd'hui, moi, si je ne peux pas me fringuer en fast fashion, je ne peux pas me fringuer. Donc, il va falloir choisir, quoi. C'est-à-dire, soit la nudité, soit vous me laissez acheter des trucs en fast fashion. Et je ne le fais pas de gaieté de cœur et je n'achète pas toutes les semaines des paniers de ouf en fast fashion. Mais il y a une réalité que dans ma taille, encore plus au-dessus du 54, il n'existe rien, quoi.
Et tu dis que ça passe beaucoup par Internet, comme si c'était quelque chose de commun, quoi.
Moi, j'habite à Paris, qui est quand même censée la capitale de la mode, la mode, la mode, la mode. Il y a un magasin où je peux m'acheter peut-être un t-shirt et un jean, un seul. Et c'est pas un jean et un t-shirt que j'aime, que je kiffe et tout ça, juste un truc pour me couvrir. Il y en a à peu près un seul et c'est une marque allemande, enfin voilà, quoi. Mais sinon, il n'y a que ça, quoi. Même H&M a retiré tous ses rayons grande taille de ses magasins parce qu'ils ne veulent pas de gros dans leurs magasins, ça fait tâche. Non, non, c'est très grave.
Je voulais parler d'un petit article que tu as écrit dans Feu, l'abécédaire des féminismes présents qui a été dirigé par Elsa Dorlin et qui est sorti en 2021. Le nom de ton article, c'est « Mon genre, c'est grosse ». Et tu parles notamment du brouillage qu'il y a quand on est gros, grosse, avec son propre genre. Et c'est aussi un sujet dont tu parles beaucoup par ailleurs. Pourquoi ton genre, c'est grosse ?
En fait, si le genre est une construction sociale, ce que j'adhère, je prends.
Ah bon ?
En fait, moi, je suis vue comme grosse. Enfin, j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas vue comme femme. Je ne suis pas vue comme un homme. Je suis vue comme grosse. C'est vraiment ça ce qui me colle à la peau, c'est ça. Je suis traitée comme une grosse. Je suis vue comme une grosse. Je suis jugée comme une grosse. On me colle des attitudes, des adjectifs, des préjugés parce que je suis grosse. Ça passe avant tout, en fait. Ça recouvre complètement, je sais pas, mon identité de femme ou d'homme, si j'étais une femme ou un homme. Enfin, veut dire, ça prend le dessus sur tout. Donc vraiment, je pense que toute mon histoire sentimentale, mes histoires sexuelles, tout ça, c'est d'abord parce que je suis grosse que j'ai vécu plein de choses. Pas forcément parce que je suis un homme ou une femme.
Et d'ailleurs, dans un podcast de Matière Grasse que je recommande vivement sur les transmasculinités, à un moment, tu demandes à tes invités s'ils ont plus vécu de transphobie ou de grossophobie, et la plupart répondent de la grossophobie. Et peut-être, est-ce que parce que la grossophobie, c'est plus prégnant ou peut-être plus incapacitant que la transidentité au niveau de l'intégration dans la société ?
Je sais pas, c'était un peu dur de poser cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup de transphobie et un peu caricaturale. Ouais. Mais vraiment, ça me tenait à cœur qu'on essaye de poser une échelle. Mais je pense que oui, d'abord, la grossophobie, elle est partout, tout le temps, dès l'enfance. Même quand tu sais pas encore qui t'es, si t'es trans, si t'es pas trans. Enfin, je veux dire, elle est partout, tout le temps. Et puis ensuite, la grossophobie, elle se marie très, très bien avec la transphobie. Aujourd'hui, on a des gens qui sont interdits, entre guillemets, de transition par des médecins qui disent « Ah bah non, je vais pas te filer des hormones, tu vas grossir. » Non, je vais pas te faire ta torso parce que tu as mal cicatrisé, parce que je peux pas t'endormir. Pour mille et une raisons, alors qu'on sait très bien opérer les gros, on le sait. Parfois c'est plus compliqué, c'est vrai. Parfois il y a plus de risques post-opératoires, c'est vrai aussi, mais on sait faire. Et on peut aussi expliquer à un patient, à une patiente, voilà les risques, voilà ce qui se passe. On peut aussi en discuter en fait. On n'a pas à refuser des soins comme ça. Donc aujourd'hui, les personnes qui sont grosses, elles vont voir les deux mêmes chirurgiens qui font des opérations qui sont pas super top toujours. Donc on rentre vraiment dans un système où ils sont obligés d'aller voir ces gens-là. Enfin, c'est très pénible, quoi. Et puis il y a aussi ce truc que moi j'ai plein de récits de personnes trans grosses autour de moi qui me disent c'est plus difficile d'avoir un passing quand on cherche à avoir un passing quand on est gros grosse, parce que quand on est gros grosse et que on a des hanches ou de la poitrine qu'on fait pas encore une torso, bah c'est plus compliqué de binder une poitrine, c'est aussi plus compliqué. L'obésité, elle est dite soit androgyne soit féminine, c'est un peu binaire mais c'est comme ça. Mais quand le gras se déplace pas, on peut avoir beaucoup de ventre comme un ventre d'homme entre guillemets, et du coup c'est plus difficile d'avoir un passing de femme. Enfin vraiment, c'est des questions sur le genre qui sont très présentes, et donc la grossophobie et la transphobie vont très bien ensemble malheureusement.
Pour finir, je voulais un peu parler de colère. Je sais que tu as participé à un ouvrage qui s'appelle Les fruits de la colère, dirigé par Pauline Armange, avec d'autres autrices comme Douce Dibondo, Fatima Wassak ou encore Kiemis. C'est quoi ton rapport à la colère et en quoi la colère ça peut servir les luttes ?
La colère c'est un vrai truc. Pour moi, j'ai passé des années à pas savoir que j'étais en colère. Tout disait que j'étais en colère, pourtant ma façon de vivre, ma façon de me faire du mal, ma façon de me taper la tête contre les murs, enfin vraiment, je pense que tout le monde dehors savait que j'étais en colère, tout le monde sauf moi, parce que j'avais été tellement élevée dans une petite case, très petite, où on n'a pas trop le droit de dire, pas trop le droit de bouger. On m'avait tellement dit que bah, déjà j'étais assez grosse, donc on va peut-être pas trop remuer à côté, on va peut-être bien fermer sa gueule. Qu'en fait, je m'autorisais même pas à être en colère, je savais pas, j'ai une espèce de fatalité, je disais c'est comme ça. Et puis le jour où j'ai eu accès à ma colère, c'était vraiment fort, et c'était pendant tout un moment, ça a été même ça a joué contre moi, ça a été dévorant, quoi. Je me suis laissée bouffer par cette colère et j'ai eu besoin de la hurler, de taper dans des trucs. Enfin, vraiment, c'était j'ai vraiment eu besoin d'être en colère très longtemps. Je pense que ça a coïncidé aussi avec mon éveil au féminisme, et donc ça allait bien ensemble quelque part parce que j'avais aussi des raisons d'être très en colère, mais j'ai eu un peu le zèle du converti où tu te mets très en colère tout le temps et tu trouves pas de répit, et ta colère engendre de la colère, et ça, et c'est un espèce de boule de feu comme ça. Et en même temps, cette colère, elle m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle m'a libérée d'un tas de trucs, elle m'a autorisée à être un tas de trucs, à dire des choses, à crier quand j'en avais besoin, à mettre des stops à plein de gens, à plein de choses dans ma vie. Donc voilà, je pense que la colère, c'est un équilibre compliqué. Je pense qu'elle nourrit et à la fois, elle te brûle. Donc il faut vraiment trouver le bon spot au milieu. Mais enfin, moi, je vous souhaite à tous et à toutes d'accéder à votre colère parce que c'est très, très, très puissant. Mais il faut apprendre à gérer le truc, quoi.
Merci, Daria Marx, d'être venue nous parler de ton livre « 10 questions sur la grossophobie ». Il sort aujourd'hui chez les éditions Libertalia. On peut te retrouver notamment le 12 avril prochain à 19h30 à la librairie Violette & Co pour une rencontre autour de ton livre. Et aussi, en mai, à la librairie, un livre et une tasse de thé. Merci d'écouter Le Lobby, chers auditeurs. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast et sur le site de Radio Campus Paris où l'émission est retranscrite pour les personnes qui souhaiteraient lire l'entretien. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, comme toujours, je vous souhaite de questionner vos représentations, de lire et d'écouter Daria Marx.
Merci beaucoup.